9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à la toute fin du règne de Louis XV, le 3 mai 1771, à la frontière entre le royaume de France et celui de Piémont-Sardaigne. On passe de chez les Bourbons à chez les Savoies, ou plutôt, c'est dans le sens inverse que nous allons faire le voyage. Un mariage, en effet, vient d'être signé à Turin, qui vient renforcer l'alliance entre les deux couronnes. Le roi Louis XV a lui-même supervisé la façon dont la jeune princesse doit venir en France, doit arriver jusqu'à Versailles. Il a contrôlé tous les détails. Vous allez me dire, mais pourquoi Louis XV s'est-il lui-même penché sur tout cela? D'abord parce que c'était un homme de dossier qui aimait bien se pencher sur les détails. Et puis, tout simplement parce que sa propre mère avait fait le même voyage 75 ans plus tôt. Alors, il est vrai que Marie-Adélaïde de Savoie était décédée alors que le petit Louis XV n'avait que 2 ans et qu'il n'avait pas de souvenir personnel de sa mère. Mais il avait vécu littéralement dans le culte de cette jeune et éblouissante mère, morte beaucoup trop tôt. Et donc, il a voulu d'une certaine manière que l'on refasse tout de la même façon. Depuis Turin, Louis XV a exigé que l'arrivée en France se fasse tout à fait comme l'avait été celle de sa mère, en suivant notamment la même route et les mêmes étapes. Nous sommes dans la commune de Pont-de-Beauvoisin, en Savoie, donc juste à l'ouest de Chambéry, si vous voulez. On a fait quelques travaux à l'endroit même de la frontière, entre une maison qui se trouve en France et une autre qui était du côté des Savoies. Eh bien, on a fait construire une grande salle centrale qui joint donc ces deux maisons exactement à l'endroit où passe la frontière. Et c'est au centre de cette salle, à la limite des deux royaumes, que la délégation française se présente. Et de son côté, la princesse est entrée du côté savoyard. Elle a monté un petit escalier, puis en passant par une antichambre, elle est arrivée dans cette salle. Elle a fait ses adieux à ses proches, s'est tournée vers ceux qui vont désormais constituer sa nouvelle maison. Elle entre en France et elle passera désormais le reste de ses jours à Versailles. C'est en tout cas ce qu'elle croit. Vous allez voir que l'histoire va totalement bouleverser les plans. Évidemment qu'on l'a entièrement revêtue à la mode de Versailles. Elle est très différente de ce qu'elle était. On a l'impression que c'est une petite bourgeoise, coquette certes, mais relativement passable, qui est entrée d'un côté et c'est une grande dame de France qui est sortie de l'autre. On n'imagine pas ce que peut être une robe de cour hein, à Versailles à cette époque. Elle s'appelle Marie-Joséphine, cette jeune princesse, Marie-Joséphine de Savoie donc. Elle va donc passer par Lyon, Roanne, Moulins, Nevers, Briare, Montargis pour se rendre à Fontainebleau où l'attend la famille royale. C'est là qu'elle va rencontrer celui qui est en train de devenir son mari, n'est-ce pas, qu'il l'est déjà sur le papier d'ailleurs. Le tout jeune comte de Provence, qui est le petit-fils du roi. Alors, deuxième petit-fils, puisque l'aîné Berry a épousé quelque temps plus tôt, 1 an plus tôt exactement, l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, bien entendu. Marie-Joséphine est assez timide. Hein. Bon, il faut quand même dire les choses, hein. Faut être honnête. Elle n'est pas très jolie. C'est pas qu'elle n'est pas très jolie, c'est qu'elle a carrément un physique ingrat. Apparemment, son jeune mari ne s'en rend pas trop compte. Le comte de Provence est tout à fait ravi de son épouse, ou en tout cas, il feint de l'être. Tous les autres sont beaucoup plus regardants. Je cite notamment Madame Campan. Vous savez que Madame Campan, qui est électrice de Marie-Antoinette, avait le sens de la formule. Elle dit: d'assez beaux yeux attirèrent à Madame la Comtesse de Provence, lors de son arrivée à Versailles, les seules louanges qu'il était raisonnablement permis de lui donner. Vous savez que c'est cette princesse qui, plus tard, dit-on, aura un petit duvet sous le menton qui ferait presque penser à une moustache, au point que son biographe Charles Dupéché, que je salue au passage, en 1993 avait intitulé sa biographie « La Reine Velue ».
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ça ne va pas être facile pour Marie-Joséphine de se faire une place dans ce Versailles terrible, dans cet épouvantable panier de crabes. Cette cour n'est pas gentille. On est très loin de Turin, qui était une cour bon enfant, si vous voulez. Non, là... Alors c'est vrai qu'elle a reçu des leçons de maintien, des cours de danse d'un maître français qui est venu spécialement à Turin, mais... Tout de même, c'est difficile, surtout qu'on est constamment comparé à Marie-Antoinette. Alors, Marie-Antoinette est gracieuse, charmante, brillante. Bon, ben Marie-Joséphine fait ce qu'elle peut, mais elle est plus libre. Elle refuse un grand nombre des points d'étiquette, notamment dans la tenue vestimentaire. Elle a une toilette qui est beaucoup, beaucoup moins au point que celle de sa belle-sœur. L'ambassadeur de Turin lui donne des lettres que lui adresse son père, le roi Victor Amédée III. Et ça devient une véritable guerre, hein, faut le dire, contre le clan autrichien. Le clan autrichien qui a eu peur dans un premier temps de ce mariage, qui s'est dit « si jamais on allait éclipser notre petite archiduchesse ». Non, non, aucun risque de ce point de vue. Dans son ouvrage « Les femmes de Louis XVIII », voici ce qu'écrit Mathieu Mensch, que j'ai lui aussi plaisir à citer. Marie-Joséphine ne fit jamais rien pour gagner en influence à la cour, ni même pour essayer de contrecarrer le prestige de la dauphine. Pense-t-elle le combat perdu d'avance ou s'en moque-t-elle ? Les ambassadeurs de Vienne et de Turin en furent réduits à mettre en scène une rivalité factice entre les deux princesses, dans leurs dépêches, afin de rassurer leurs souverains respectifs. Les années passent et, après la mort de Louis XV et l'avènement au trône de Louis XVI et de Marie-Antoinette en 1774, Marie-Joséphine joue à la cour le rôle d'exact opposé de sa belle-sœur. Contrairement à la reine, elle ne goûte que très peu la société, ne se montre pas friande de bals et de mondanité. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'aime que ses livres. Marie-Joséphine, qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas une mondaine pour deux sous. Non, non. Alors, c'est embêtant ça, parce que son mari, le comte de Provence, lui, en revanche, est très mondain. Ce qui est inouï, c'est que le duc de Berry, l'aîné, qui est un garçon très casanier, très austère même, a épousé la très frivole archiduchesse Marie-Antoinette, alors que son petit frère, Provence, qui lui est un garçon qui aime les mondanités, les soupers, l'opéra, eh bien lui a épousé, voilà, comme c'est mal fait hein, le monde, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Ils vont essayer d'avoir des enfants, ces deux princes, bien sûr, mais évidemment, ça ne marche pas. Je dis évidemment, enfin, il n'y avait pas d'évidence, vous me direz, mais la princesse, à deux reprises, va faire des fausses couches, et l'on voit bientôt monsieur, puisque maintenant son frère est roi, on l'appelle monsieur, hein, il est le frère du roi, le premier des frères du roi, il y a un autre plus petit frère qui s'appelle le comte d'Artois. En tout cas, monsieur se détourne de sa femme, et d'ailleurs, assez vite, il trouvera, surtout pour faire taire les mauvaises rumeurs, il trouvera en la personne de la comtesse de Balby, une maîtresse tout à fait à sa main. Madame, pendant ce temps-là, se sent seule. Alors, c'est vrai que arrive sa sœur, puisque le petit comte d'Artois, là, dont je vous parlais, le plus jeune des frères royaux, le petit comte d'Artois a épousé la sœur de Marie-Joséphine. Ça ne s'invente pas, ça, quand même. Mais la vérité, c'est que la comtesse d'Artois n'est pas proche de sa sœur et que celle-ci ne trouvera aucun réconfort à ce mariage et à l'arrivée de sa propre sœur à la cour. Alors, pour oublier tout ça, il faut que je vous dise la vérité. C'est que madame se met à boire, oui. C'est un peu inattendu hein, dans le cadre de Versailles, mais c'est ainsi. Elle a la bouteille facile. D'ailleurs, il y a des caricaturistes qui se mettent à la représenter toujours avec une petite fiole qu'elle tient comme ça par le goulot. Vous voyez, c'est pas très gentil tout ça, mais ce n'est pas une cour gentille, je vous l'ai dit. Et puis, évidemment, comme elle boit, on la montre de moins en moins. Et comme elle n'aime pas se montrer, ça tombe bien. Elle est malheureuse, la pauvre, dans cette cour tellement cruelle et qui ne l'aime pas et qu'elle n'aime pas non plus. On sait qu'en 1789, au moment où commencera la Révolution, elle sera favorable aux idées révolutionnaires, Marie-Joséphine. Et si elle y voyait peut-être un moyen, tout simplement, de se venger.
Thank you.
le premier mouvement de la symphonie opus 6 numéro 3 de Gossec par le concerto Köln sous la direction de Werner Erhardt.
Vous écoutez Radio Classique.
Comme elle est malheureuse, cette jeune princesse. Son mari a complètement déserté non seulement sa couche mais ses appartements. Elle ne voit plus monsieur que dans les représentations officielles ou dans les soupers qui sont organisés par leur beau-frère, le roi Louis XVI. Alors elle essaie quand même d'être un peu présente. Une fois par semaine, elle organise notamment un concert. Et à plusieurs de ces concerts, on voit Marie-Antoinette, qui est bonne fille, si vous me passez l'expression, qui vient chanter chez sa belle-sœur. Et de temps en temps, elle-même se rend à l'opéra. Mais disons les choses, elle s'ennuie, elle se morfond jusqu'au jour où elle rencontre sa nouvelle lectrice. Sa nouvelle lectrice s'appelle Marguerite de Gourbillon. Ah, c'est une femme assez extraordinaire qui a 16 ans de plus qu'elle, qui est ravissante, qui est drôle, qui est humaine, qui va apporter dans cette vie tellement maussade toute la chatoyance de son tempérament beaucoup plus agréable. Alors on a beaucoup porté de rumeurs, hein. Est-ce qu'elles étaient amantes ? Personne n'en saura jamais rien pour tout vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elles étaient plus qu'amies. C'était une très grande et une très belle amitié entre ces deux femmes, ça c'est incontestable. Et quand arrive la Révolution en 1789, monsieur commence à s'agacer de la présence un peu trop fréquente de cette Gourbillon. Tout le monde la déteste à la cour, hein, bien entendu. On lui tourne ostensiblement le dos, on lui fait subir toutes sortes de vexations. Mais peu importe, elle aime beaucoup la comtesse de Provence et elle reste fidèle, elle reste dévouée. Quand même, monsieur demande à son frère, on est donc au tout début de la Révolution, là, il demande à son frère une lettre de cachet pour faire envoyer cette Gourbillon en Picardie. Et Louis XVI n'ose pas s'opposer au comte de Provence et il signe la lettre de cachet. Vous imaginez le drame pour madame qui proteste. Elle n'aimait qu'une seule personne en ce monde et on l'en sépare et on l'éloigne. Elle va tomber dans un état d'abattement que nous pouvons d'ailleurs qualifier, nous, de dépression. Et c'est une sévère dépression. Elle maigrit à vue d'œil. Elle se met à perdre ses cheveux par pleine poignée. C'est là qu'on se met d'ailleurs à soupçonner la relation amoureuse. Parce que jusqu'alors, on ne s'était jamais vraiment posé la question. Et quand s'ouvrent les états généraux, les 4 et 5 mai 1789, eh bien, madame essaie de penser à autre chose. Et elle va donc se passionner pour cette révolution naissante. Je cite Mathieu Mensch. Personnage secondaire mais membre à part entière de la famille royale, Marie-Joséphine participe à tous les grands événements qui se déroulent à Versailles. Cette ébullition du royaume ne lui semble pas dangereuse dans un premier temps et elle espère bien au contraire que ce vent de liberté puisse lui être favorable. S'estimant victime d'une forme de tyrannie, après tout est-ce qu'elle n'a pas subi les effets indirects d'une lettre de cachet, hein, elle croit sincèrement que ces changements amèneront le roi et son époux à lui rendre sa favorite. Elle assiste à la procession et à la cérémonie d'ouverture des états généraux en mai 89, où elle siège près de la reine et de sa sœur, la comtesse d'Artois. Le 6 octobre 1789, la prise d'assaut de Versailles ne lui parvient que dans un second temps, ses appartements étant éloignés de ceux de la reine. Ensuite, madame suit le reste de la famille royale, qui part s'installer à Paris. Contrairement au roi, à la reine et à leurs enfants, contraints de s'établir dans le palais mal commode des Tuileries, le couple Provence peut intégrer ses luxueux appartements du palais du Luxembourg. Oh, on ne peut pas dire que pour la comtesse de Provence, le décor compte tellement, pour tout vous dire. Les événements s'accélèrent sur le plan personnel. Elle obtient ce qu'elle veut, car enfin, monsieur autorise sa gouvernante, autorise sa lectrice à revenir. Pourquoi ? Parce que monsieur a besoin de la Gourbillon. Il en a besoin pour organiser sa fuite hors de France. On arrive en juin 1791 et un certain nombre de personnes préparent non seulement la fuite du roi et de la reine, mais de tout ce qu'il peut y avoir encore d'important dans la famille royale. On est dans la nuit du 20 au 21 juin, vous savez, Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs enfants montent dans cette fameuse berline vert et jaune là pour prendre la direction de l'Est, la direction de Montmédy. Ils seront arrêtés à Varennes, vous le savez. Quant à Marie-Joséphine, eh bien, elle a été prévenue quelques heures plus tôt. Son mari lui propose de partir, ce qu'elle accepte, mais lui veut partir séparément. Tous les deux doivent se retrouver à Bruxelles, mais il entend bien faire le voyage de son côté, monsieur. Quant à Marie-Joséphine, eh bien, elle fera le voyage avec Marguerite. Tout fonctionne à merveille, hein, entre parenthèses. Autant ça se passe mal pour le roi, autant ça se passe bien pour monsieur, qui arrive donc à Trèves chez le prince électeur. Monsieur va partager son quotidien de son côté avec la comtesse de Balby, ce qui ne dérange pas du tout madame. Elle-même est avec Marguerite. Elle est beaucoup plus heureuse qu'à Versailles, entre parenthèses. Et puis, il n'y a plus personne pour la critiquer maintenant. Les deux époux doivent partir finalement parce que les choses se gâtent. Arrive le terrible mois d'avril 1792. Entre-temps, Louis XVI et Marie-Antoinette sont repartis sous bonne garde à Paris, vous savez. Monsieur se rend auprès de l'armée de Condé et sa femme, avec sa favorite bien sûr, rentre à Turin, chez ses parents. Extraordinaire! La famille royale de Savoie est heureuse de les accueillir, mais... elle n'est pas très heureuse, en revanche, de la présence de cette madame de Gourbillon, qui en plus coûte cher par les cadeaux que lui fait la princesse. Et pendant qu'elle se trouve à Turin, madame apprendra les morts successives de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, à l'échafaud, et puis un peu plus tard, évidemment, dans la prison du Temple, celle du petit dauphin en 1795. Monsieur, aux yeux des royalistes, à ce moment-là, devient le roi de France. Puisque le petit Louis XVII est mort, il devient le roi Louis XVIII. Quant à madame, eh bien, aux yeux des royalistes de toute l'Europe, aux yeux, disons, de toute l'Europe, elle est la reine de France. Le ballet chevaleresque de Beethoven par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette de Herbert von Karajan.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On peut dire maintenant de Marie-Joséphine qu'elle est une reine de France en exil. C'est le régime du Directoire qui, pendant ce temps-là, est en train de s'installer en France. Les royalistes vont se liguer au sein du pays, gagner des élections. Plusieurs insurrections ont lieu, vous savez. Bon, bref, l'Europe entière se coalise contre la France. Mais vous savez que les armées françaises, avec notamment des généraux comme Bonaparte, entre autres, tiennent tête, font reculer les troupes coalisées, notamment en Italie, ce qui oblige les Savoie a évacué Turin. Après la défaite du royaume de son père contre les armées de Bonaparte, la reine supposée de France retourne à Turin, mais cette fois, elle est seule parce que son père n'a pas voulu que sa favorite soit du voyage. Je cite Mathieu Mensch. Marie-Joséphine fait alors preuve de toute la fermeté dont elle est capable et royale, annonce quitter les états de son père. C'est donc sans argent que la princesse se met en route pour Bellinzona en Suisse, dans cet esprit d'indépendance qui l'a souvent caractérisée, mais sachant également qu'elle s'expose à de grandes déconvenues financières. Cet exil si peu digne d'une souveraine déplaît à son époux qui intervient auprès de l'empereur du Saint-Empire romain et empereur d'Autriche François II pour trouver un lieu plus approprié. Le souverain met à disposition le château de Riedenburg en Bavière, sorte de forteresse mal commode bien plus que château d'agrément. Son entourage est réduit à la portion congrue et la reine n'a plus un sou vaillant. Elle quitte alors la Bavière dès le mois d'août pour s'installer à Budweis en Bohême. Et de son côté, Louis XVIII parvient à faire venir auprès de lui la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, hein, Madame Royale, la survivante du Temple, vous savez, qu'il veut marier à son neveu. Pour le comte de Provence, devenu donc roi Louis XVIII aux yeux de tous ceux qui pensent que la monarchie va revenir en France, être loin de sa femme n'est pas vraiment un problème. Le prince souhaite marier donc Madame Royale à son neveu le duc d'Angoulême. Pour faire bonne figure, il faudrait quand même que son épouse se joigne à l'événement. Louis XVIII veut bien qu'elle vienne, Marie-Joséphine, mais à une condition. Vous voyez laquelle c'est, une fois de plus.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Or, lorsqu'elle arrive en Courlande, Marie-Joséphine est, j'allais dire, au bras. En tout cas, elle est avec Marguerite. On s'est beaucoup moqué de tout ça. On en a fait des gorges chaudes, on l'a présentée comme une reine impossible. Moi, je trouve que c'est assez beau ce qui s'est passé et que cette très grande amitié, à tout le moins, entre ces deux femmes, au milieu de toute la tourmente révolutionnaire, a quelque chose qui force l'admiration et qui est assez beau, je crois. Louis XVIII, en tout cas, ne l'entend pas de cette oreille, il ne veut pas être la risée de l'Europe et il demande au tsar d'interdire la présence de Marguerite. Et le tsar n'a pas le choix, il fait arrêter Madame de Gourbillon à la frontière. On va d'ailleurs la mettre en résidence surveillée pendant un temps à Vilnius avant de l'expulser en Angleterre. Et là, Marie-Joséphine est d'une colère, elle ne se tient plus, elle a vraiment des crises d'hystérie, mais rien n'y fait évidemment. 10 juin 1799, c'est le mariage de Madame Royale. Marie-Joséphine va rester un peu à Mitau. Vous savez, Mitau, c'est donc le nouveau siège des exilés, des émigrés. Ça ne lui plaît pas du tout, ça lui rappelle beaucoup trop Versailles, tout ça. Et puis, elle va circuler dans différentes villes allemandes. Les années passent. Elle a réussi, entre parenthèses, pendant toute la période où elle a été séparée de Marguerite, à établir tout un système de correspondance avec elle, avec des messagers, etc. Elle arrive à correspondre. 1807, le tsar doit négocier la paix avec Napoléon, donc il faut que Alexandre Ier demande à Louis XVIII de bien vouloir quitter le territoire. Et le roi en exil, le prince, devrais-je dire, décide de partir lui-même avant qu'on ne le mette dehors. Son épouse est avec lui, bien sûr. Elle le suit à Londres. Le gouvernement britannique leur demande de vivre là comme de simples particuliers. Vous imaginez? Et la princesse est constamment malade. Elle est de plus en plus dépressive. Elle écrit de plus en plus souvent à sa favorite qui continue à lui demander de l'argent. À la fin de l'année 1810, Marie-Joséphine ne quitte plus son lit, ses forces l'ont quittée. Et c'est Louis XVIII, celui qui va devenir le roi Louis XVIII en 1814, qui raconte leur dernier échange. « Cependant, la crise diminuait et ses forces étaient revenues. Elle me fit appeler et me demanda pardon de tous les chagrins qu'elle avait pu me donner. « C'est moi, répondis-je, qui vous conjure de me pardonner tous mes torts. « Non, non, me dit-elle, l'abbé Bréon sait bien que je n'ai rien contre vous. » Ensuite, sentant que mes larmes inondaient sa main, « Ne m'attristez pas davantage, ajouta-t-elle avec la même douceur, je ne dois plus m'occuper que de Dieu devant qui je vais paraître et que je prierai pour vous. » Ces deux êtres, en vérité, ne s'étaient jamais aimés, ils ne s'étaient même jamais vraiment connus. Le 13 novembre 1810, à l'âge de 57 ans, Marie-Joséphine s'éteint donc à Londres, loin de ce royaume à la tête duquel se trouvera très bientôt, dans moins de 4 ans, son mari, celui qui lui a servi de mari et qui n'a, somme toute, même pas été un compagnon. Quant à Marguerite, me direz-vous, Marguerite est morte en 1817. Elle était rentrée chez elle pendant ce temps, elle vivait dans ses provinces et elle est morte en 1817. On a envoyé immédiatement la gendarmerie saisir l'intégralité de sa correspondance. Des fois que...
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir fait revivre la reine velue, si je puis dire. Et voici, pas velue du tout, Monsieur Christian Morin. Bonjour Christian.
Faire revivre les personnages au travers de l'histoire, c'était pas tant.
Oui, c'est beau.
Se replonger comme ça dans les images et croiser tellement de monde grâce à vous tous les matins. Cet après-midi, vous croiserez Guillaume Apollinaire, trépané d'ailleurs.
Oui, le pauvre.
Après la guerre pendant la guerre de 14, d'ailleurs. Mm-hmm. D'ailleurs, cette photo, c'est une des plus connues d'Apollinaire, avec ce pansement sur la tête. Ami de Picasso, vous nous raconterez tout cela cet après-midi à 14h et on aura le plaisir de vous retrouver demain matin.
À demain avec...